C'est interdit, les chaises sont électrifiées.
Louons le Seigneur encore. Avec la joie que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, n'hésitons pas à faire même des trucs que nous n'avons jamais fait. Si le bon Dieu vous le propose, de lever les mains, de sauter sur place, et de sourire avec toute la joie des enfants de Dieu.
Louez le Seigneur de tout votre cœur, louez le Seigneur, peuple de la terre,
louez
le Seigneur de tout votre cœur, louez le Seigneur, peuple de la terre,
louez
le Seigneur de tout votre cœur, louez le Seigneur, peuple de la terre.
Pour entendre des paroles qui vont nous exhorter, qui vont nous faire grandir, Seigneur, viens inspirer ceux qui nous parleront ce soir, celles qui nous parleront ce soir, donne-nous d'être pleinement ouverts à ta volonté, à ta parole, viens changer, transformer nos vies. Amen.
dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force.
Une autre séquence aussi, témoin à temps et à contre-temps des jeunes à la pointe du renouveau missionnaire. Donc, une série d'interventions qui va nous porter aux alentours de 11h moins le quart. 11h moins le quart, on m'a dit. Et ensuite, il y aura un temps de prière pour nous introduire dans cette veillée à entrer dans la nuit et dans la paix du Seigneur. Les jeunes au cœur de la mission et qui révèlent la jeunesse de l'Église. Alors ces quelques témoignages que nous allons entendre vont nous aider à mettre les jeunes au cœur de notre dispositif missionnaire, paroissial. Ils sont l'avenir de l'Église, l'avenir de la société. Ils expriment la beauté, la générosité de la foi. Nous prions pour eux en nous confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Autour de cette table, Pierrick et Marie Tirel, cofondateurs de Beta Barra, aux côtés du Père Marie-Angèle, la communauté Saint-Jean. Cette proposition d'évangélisation organise des week-ends aux jeunes de 12 à 17 ans. Nous les entendrons d'abord. Ensuite, Alexis de la Barthe, qui était au lancement du groupe de prière Kavod, à la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne, et qui a fondé en septembre 2009 le groupe Samarie, qui est un groupe de prière de mission de jeunes dans le quartier de Pigalle, à Paris. Ensuite, Audrey Bugerolles, qui fait partie de l'équipe nationale Jeunesse 2000, où elle s'occupe en particulier de la communication. Et enfin, Raphaël Cornut-Ténard, marié, architecte, et qui a lancé plusieurs initiatives, les Pèlerins de l'Espérance, et en particulier, c'est pour cela qu'il va nous adresser la parole, le groupe Annuncio, qui propose l'évangélisation un peu partout en France l'été, à partir de la Sainte-Baume, et qui se déploie en râteau sur l'ensemble du territoire pour se rassembler en finale à Paris. Donc je demande à Pierrick et Marie Tirel de présenter l'initiative Beta Barra, pour nous dire ce qu'ils font avec ce groupe et quel est le dynamisme et le charisme de cette initiative.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Voilà, on est tout heureux d'être là au milieu de vous.
Et tout impressionné.
Tout impressionné. 15 minutes, oui. Mais il faut quand même le dire. Voilà. Donc, nous avons fondé l'association Betabara, donc pour l'évangélisation et le réveil spirituel des adolescents. Voilà, en organisant des retraites, comme l'a dit Monseigneur, pour les adolescents. Donc avec le Père Marie-Angel, donc Père de Saint-Jean, et qui brûle dans son cœur pour les jeunes, pour les adolescents. Et donc c'est après un appel qui nous a fait, que nous l'avons suivi dans cette aventure avec ces adolescents. Moi, de mon côté, je suis un converti, je me suis converti à 21 ans. Je viens du milieu de la drogue, j'étais dealer, organisateur de rave party. J'ai connu pas mal la violence, la rue, enfin voilà. Et du coup, mon expérience me donne l'occasion de rejoindre beaucoup de jeunes qui sont dans des situations de grande détresse et désespoir. Voilà. Je me suis converti donc à 21 ans à Medjugorje et j'étais totalement rempli du Saint-Esprit pendant un pèlerinage où en fait j'ai été guéri d'une jambe raide et j'ai été totalement délivré de la drogue lors d'une confession. Je touchais à des drogues très, très dures, très difficiles. Et donc après, j'ai eu la grâce de pouvoir aller à Jeunesse Lumière. Donc là, je salue Daniel Ange, que je n'ai pas encore vu. Et donc, une année qui m'a construit, qui m'a redonné ma dignité d'enfant de Dieu, quoi. Et pendant cette année-là, j'ai rencontré Marie-Angel en mission. Et donc, depuis, est née une amitié spirituelle et une amitié fraternelle qui nous lie dans cette mission.
Voilà, pour ma part, quand j'étais ado, j'étais aussi vraiment complètement dans le monde. Je croyais ce que le monde me faisait croire, que le bonheur, c'était tous les péchés banalisés que vous connaissez tous. Et donc, il a fallu que j'arrive à 23 ans pour me rendre compte que j'étais complètement vide. Et moi-même aussi, j'ai été convertie à Medjugorje. Et ensuite, avec Pierrick, on s'est rencontrés à Medjugorje. Et on s'est mariés rapidement en étant convaincus qu'on voulait donner notre vie pour la mission. Donc ensuite, voilà. En 2004, le Père Marie-Angèle a organisé un premier week-end pour les ados, un peu expérimental, enfin, où il nous avait invités pour témoigner. Et en fait, lors de ce week-end, on a vécu vraiment une expérience de Pentecôte avec les adolescents. Nous-mêmes, on était remplis de l'Esprit-Saint. Il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Et on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'association Betabara, dont le nom, bizarre, signifie « le lieu du passage » en hébreu. Comme l'adolescence est un passage de l'enfance à la vie adulte. Betabara, c'est dans Jean 1, 28. Dans la Bible, c'est une autre traduction dit « Béthanie ». Au-delà du Jourdain, c'est le lieu où Jean baptisait, prêchait, convertissait les foules et où Jésus lui-même a été baptisé. Ce lieu, c'est vraiment le lieu d'une manifestation trinitaire parce que Jésus était là, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, le Père a parlé en révélant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur ». Et nous, c'est ce qu'on veut dire aux ados, c'est ce qu'on veut qu'il se passe à Betabara, on veut dire, qu'ils entendent « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour ». Voilà.
Là, concrètement, le déroulement des week-ends, nous rassemblons environ une cinquantaine d'adolescents par week-end. Et donc, les jeunes viennent par bouche à oreille, nous ne faisons pas de publicité. Et donc, on a un petit site internet très basique, vraiment pour information.
On a pris des leçons.
On a pris des leçons pendant ce week-end. C'est des jeunes qui viennent de tous milieux sociaux. Des jeunes dont les parents sont plus ou moins croyants. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment les jeunes de partout, quoi. L'équipe qui encadre les jeunes se compose de la façon suivante. Nous avons les précurseurs, parce que nous avons reçu vraiment cette mission. D'être comme des petits Jean-Baptiste, à montrer l'agneau de Dieu aux jeunes, à être des témoins, à leur montrer Jésus. Et donc on les appelle les précurseurs, ces jeunes-là, ces gens qui sont engagés. Ils sont engagés à l'année, et des jeunes qui sont majeurs, et qui sont appelés intimement dans leur cœur à servir la jeunesse et qui ont un cheminement spirituel déjà profond. C'est des jeunes enracinés. J'ai un peu copié à Jeunesse Lumière, mais on a appelé les petits jeunes qui sont avec nous, qui servent. Les petits jeunes qui servent le... Non, c'est pas le mien. Les petits jeunes qui servent avec nous, parce qu'on a des jeunes entre 16, 17, 18 ans, qui sont comme un peu le levain dans la pâte, qui sont les grands frères, les grandes sœurs des adolescents, et qui ont déjà commencé un chemin de sainteté, un chemin de conversion. Et donc ces petits jeunes-là, on les appelle les Anaouim, c'est les petits pauvres du Seigneur. Voilà. Et donc ils se mettent au service des jeunes, au service de l'association. Et donc tous ensemble, précurseurs, Anaouim, on vit tout avec les jeunes. On mange avec les jeunes. Trop souvent, on voit des retraites où les socles organismes mangent à part et puis les autres mangent de leur côté, tout ça. Nous, on ne veut pas ça, on veut être avec les jeunes parce que Jésus, il était à table avec les gens et il se passait beaucoup de choses à table. Et puis, en fait, c'est vivre avec eux, quoi. On est comme eux. Voilà. Et donc, on peut vraiment aussi leur témoigner des choses personnellement. Et puis, on a aussi des intervenants qui viennent pour apporter leur grâce aux jeunes.
Voilà. On va développer 5 points essentiels qui se passent pendant les week-ends. Premièrement, la louange. Donc, en fait, on n'a plus besoin de trop vous expliquer parce qu'on vit tout ici. Je pense que, voilà, on vit le genre de louange qui se passe ici. Et voilà, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit moderne, mais pas juste pour que ce soit moderne. On prend des chants qui ont 50 ans, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. L'Esprit Saint fait que c'est moderne, je ne sais pas, que ce soit beau, joyeux. Que ça invite à la danse. À Betabara, on a l'habitude de dire que si chanter, c'est prier 2 fois, danser, c'est prier 3 fois. Et voilà, les jeunes sont là avec à prier, donc l'âme, le corps, l'esprit, tout est présent. Et on y tient beaucoup, quoi. On fait attention à notre équipe de louanges, on invite le plus souvent les adolescents qui sont déjà venus à participer. Alors ils amènent leurs instruments, ils louent, ils jouent, ils chantent avec nous, je fais chanter les jeunes, etc. Et évidemment, au début du week-end, c'était comme vous hier, hein. Enfin c'était comme nous, pardon, comme nous hier après-midi, on était tous, il y en a 2-3 qui tapaient des mains, mais pas trop, puis ce soir c'est farandole. Voilà, ça c'est le Seigneur, il fait des merveilles comme ça. Et en tout cas, on est toujours, comme disait Pierrick, on mange avec eux à table, mais nous, en tout cas, toute l'équipe, les jeunes qui connaissent, on est les premiers à louer. On veut pas, on sait pas qu'on montre l'exemple, c'est juste qu'on le vit. On le vit et les jeunes le comprennent. Du coup, on n'est pas obligé de mettre des mots sur tout, parce qu'il y a des choses qui sont révélées par le vécu, quoi. Donc voilà. C'est vrai qu'on est très plein de manifestations de joie. On saute, on danse, on élève la voix, on crie de joie. On fait ce qu'on dit, en fait, souvent dans les paroles du chant, tout simplement. Il paraît que c'est ça dans les psaumes aussi, hein, et on peut crier de joie. Et voilà, et cette joie est vraiment petit à petit contagieuse au cours du week-end. Elle permet aux ados de se libérer du regard des autres. Ça, c'est très important parce qu'ils vivent dans un monde où ils sont complètement... ils ont l'impression d'avoir les yeux... des autres toujours braqués sur eux, à savoir comment ils s'habillent, comment ils se tiennent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, les mots qu'ils emploient. Et là, on voit des ados qui deviennent, qui découvrent un truc incroyable. La plupart nous témoignent de qu'ils n'avaient pas été aussi heureux depuis longtemps. Les parents nous le disent après les week-ends, mais il est revenu rayonnant, on n'avait pas vu comme ça. Et pour beaucoup, vraiment, c'est la part de la louange, de cette libération qu'ils ont pu vivre. C'est un trésor, quoi, pour eux. Alors que c'est des jeunes qui sont comblés matériellement. On peut vous dire que ce sont des vrais miséreux en ce qui concerne la vraie joie. Voilà. Donc, les temps de louange nous amènent au fur et à mesure du week-end dans des temps d'adoration. Et là, on est toujours saisis de voir à quel point les jeunes sont capables de Dieu. On les voit absorbés dans la prière, certains à genoux, dans l'intimité avec Dieu. Ça n'arrive pas dès le premier temps de louange. C'est comme tout, au fur et à mesure des enseignements, tout ça. Et donc, à ce moment-là, l'Esprit Saint peut se manifester de façon puissante et les jeunes reçoivent souvent l'épuisement de l'Esprit. Donc, pour vous dire concrètement, il y a des jeunes qui se mettent à pleurer, d'autres qui nous disent après, ils ont reçu des convictions de péché, des libérations dans leur cœur, certains vivent le repos dans l'Esprit Saint. Et donc beaucoup font l'expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus. Parce que si souvent ils viennent d'une famille de tradition chrétienne, ils n'ont pas embrassé la foi pour eux-mêmes. Et c'est vraiment pour ça que nous, on agit, pour qu'ils puissent vivre ce moment-là, quoi. Et qu'ils décident petit à petit de donner leur vie à Jésus.
Voilà, pendant ces temps de prière, nous avons l'occasion de prier personnellement pour les jeunes dans une démarche d'intercession, en les accompagnant par une parole, par une main sur l'épaule, en les encourageant à accueillir la grâce que l'Esprit-Saint propose à ce moment-là, en leur partageant une parole de connaissance, un verset de la Bible. Ces temps sont comme un passage dans le Jourdain, comme un renouvellement du baptême. Toutes les grâces ressortent vivifiées. Moi, je dirais même que c'est comme s'ils avaient été plongés dans le sang de Jésus, dans le sang du Christ. Et parce qu'après, ils vont faire cette expérience de la confession, où ils sont blanchis de leur vie, de leur péché et tout ça. Donc on voit des passages, vraiment, après ces temps de prière, ces temps d'adoration personnelle, où les jeunes passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, ce qui est ensuite visible vraiment sur leur visage, ils rayonnent.
Ensuite, on accorde une grande place au sacrement. Betabara se veut catholique et on veut leur dire à quel point on a un trésor inestimable à partager. Alors, évidemment, on leur parle des saints, de la Vierge Marie comme notre maman. Et donc, tout dans le week-end, on essaie de leur apporter à ce qu'on va vivre vraiment, le sacrement de la confession et l'Eucharistie. La confession, alors, on leur propose tout le temps. On leur dit même que les prêtres peuvent être dérangés à toute heure du jour et de la nuit, ce qui est vrai. On essaie d'en inviter le plus possible. Enfin, le plus possible, c'est 3 ou 4. Mais quand on en a un, déjà, c'est bien et il se met vraiment à disposition. Mais en tout cas, on ne leur met pas la pression. On ne fait jamais le compte qui s'est confessé, qui ne s'est pas confessé. Dans les week-ends, en fait, on ne fait jamais la police. On n'est pas... Je pense que les jeunes, ils vivent un temps où ils voient tellement qu'on leur fait confiance. Évidemment, on met des règles de base, mais en général, la confiance, ils la sentent et ça se passe bien. Je parle de discipline en général, mais en tout cas, pour la confession, c'est incroyable de voir que tous ceux qui y passent, la plupart d'entre eux y passent, et qui, en fait, ils se témoignent très vite, les uns avec les autres, de ce qu'ils ont vécu, et ils se conseillent l'un l'autre d'y aller, quoi. On fait des messes pédagogiques. Donc la messe, en général, c'est toujours ce que redoutent les jeunes. Et voilà, ils nous disent bien, bon, moi je veux bien Dieu, mais la messe... Alors en fait, on prend le temps de tout expliquer. Du signe de croix, enfin, ça dépend des prêtres, mais voilà. Du signe de croix, la parole de Dieu, la consécration, comment communier. Et donc chaque geste de la messe prend son sens. On fait des temps d'adoration du Saint-Sacrement. En général, ils comprennent tout seuls à quel point c'est sacré, que Dieu est là. Il se passe des belles choses.
On va passer vite, mais les jeunes ont énormément besoin d'être enseignés sur les réalités de la foi. Il ne faut pas leur donner des cakes à manger. Il faut vraiment leur donner la parole de Dieu. Et franchement, il faut vraiment leur donner la parole de Dieu. Ils ont un grand sens spirituel, vraiment. Il faut vraiment qu'on trouve... Enfin, il faut juste leur révéler. Et eux, ils sont vraiment capables de... Voilà. Et puis, il faut des personnes passionnées pour transmettre ça, qui vivent ce qu'ils disent. Hein, c'est vraiment très important. Et en fait, les temps d'enseignement, tout ça, sont aussi faits pour qu'ils puissent discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, le bien, le mal. Hein, on essaye vraiment de les rendre autonomes au niveau de la foi. On abrège. Ouais, bon, y en a qui découvrent en fait que l'occultisme, c'est pas bien, le spiritisme, tout ça, etc. Et bon, bah, à travers la confession, il y en a. C'est brisé. Et puis ils s'en sortent. Des fois, il y a des jeunes qui sont allés où c'est plus dur, et là, il faut un accompagnement plus long, plus fraternel. Et donc, j'essaierai d'en parler plus tard si je peux. Voilà. Mais en tout cas, on a un grand besoin d'accompagnement spirituel, hein, si les prêtres entendent ça.
Oui. On veut vous parler quand même des fruits un peu plus. On voit beaucoup de rencontres personnelles avec Jésus. On voit des conversions, des jeunes qui changent de vie, qui se détournent du péché, qui fréquentent les sacrements, même si, ils ont... C'est difficile pour pas... Ouais. Ils évangélisent, ils reviennent avec leurs amis, avec leurs cousins, avec leurs frères, avec... Ils nous disent, les parents nous appellent, disent qu'ils obligent leurs parents à prier. ils obligent leurs parents à louer. Il y en a qui évangélisent leur école. On a des animateurs pastoraux qui nous appellent, disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous proposez ?» Voilà. On sent qu'il y a des leaders qui se réveillent. Il y en a qui ont des initiatives, qui créent des groupes de prière là où ils sont. Ils ont 14 ans. Hein. Il y a un jeune qui a 12 ans, il a créé un groupe de musique reggae chrétien et il est passé au festival de Chartres de Pâques il y a 3 semaines. Voilà, c'est...
Donc en fait, les jeunes...
Il y a aussi évidemment des éveils. On fait attention à l'éveil des vocations. Et on a des jeunes, ça y est, qui rentrent au séminaire. Betabara n'a que 5 ans, mais ça commence. Il y a des mariages, des jeunes qui vont en école d'évangélisation. Et beaucoup de guérisons. Il y a quelques guérisons physiques étonnantes qu'on a vécues, mais des guérisons psychologiques, affectives et même intellectuelles. Il y a des jeunes qui travaillent mieux à l'école. Et moi, je peux vous dire, je suis orthophoniste et c'est pas le moindre des fruits. Il y a des réconciliations dans les familles. Ils sont restaurés en chemin de restauration en tant qu'enfants de Dieu.
Dernière chose, après on arrête parce que oh là là, fou. Mais c'est les jeunes quoi, ils ont une petite place comme ça. Donc susciter les enjeux pour nous, c'est susciter des jeunes saints pour notre époque, parce que les jeunes n'ont plus le choix. Soit ils choisissent la sainteté, soit ils choisissent la médiocrité. Mais les jeunes sentent bien que maintenant ils sont obligés d'être des saints quoi.
Surtout qu'ils sont... Ça, on peut pas... Enfin, nous, on se rendait pas compte. On avait l'impression qu'on connaissait les jeunes. Mais on se rendait pas compte à quel point cette génération est dans les sales pattes de Satan. C'est quelque chose d'incroyable. J'en parlais aujourd'hui avec un père de famille qui j'évangélisais. Il disait, mais c'est dingue, la catéchèse du monde est 10 millions de fois plus forte que celle qu'on peut leur apporter. Ils sont influencés dans leur classe par le mal, par le mal, par le mal. On peut même pas dire, bon, c'est pas bien méchant, mais presque... Enfin, on ne démonise pas du tout, nous on est plein d'espérance, hein, attention, hein. Mais c'est grave, il faut quand même qu'on se rende compte que c'est urgent de s'occuper des jeunes et des adolescents en particulier, au moment où ils se construisent dans leur vie, dans leur identité, il y a quelque chose à faire. Et nous, on veut, dans les enjeux, on veut dire qu'il faut que ça se multiplie, qu'il y ait des week-ends, ce que vous voulez, enfin, on ne dit pas qu'il faut faire Betabara partout, mais des choses pour les adolescents, voilà, avec des gens qui sont passionnés, qui croient juste en Dieu et qui croient que l'Esprit Saint peut agir selon les talents de chacun.
Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. On a un enjeu pour l'Église. On a un enjeu pour l'Église, ce qui doit en fait vivre une radicalité elle-même dans la sainteté et redécouvrir la grâce pour les jeunes, à redécouvrir la prière de libération et de délivrance. C'est très important. Beaucoup, et donc je parle aux prêtres et puis à tous les laïcs qui veulent se former à ça. Les jeunes sont dans une situation incroyable où un Jésus je t'aime ne suffit pas. Et donc il faut vraiment les arracher des fois à la mort comme Jésus nous a arrachés nous aussi à la mort.
Voilà. Merci. Amen.
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie.
Je changerai.
Je changerai l'orgueil en allégresse. Je changerai je leur donnerai l'argent. Je te chanterai. Je leur donnerai ma joie. Je leur donnerai l'argent. Au lieu du chagrin, je leur donnerai ma joie.
Voilà, deuxième. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Monseigneur, je m'appelle Alexis Delabarthe, j'ai 27 ans. Déjà, il s'est trompé sur la date de lancement de Samarie. C'était pas septembre 2009, mais janvier 2009. Bon, ça, c'est un détail, mais comme ça, vous le savez pour l'historique. En fait, je vais suivre les questions qui ont été posées ce matin par Alex pour la trame. Je vais passer un petit peu de temps en fait sur le discernement de la fondation de ce groupe, parce qu'il y a eu pas mal d'étapes qui sont faites dans le temps et qui, à mon avis, sont importantes si vous avez le désir un jour de fonder quelque chose. Enfin, ça s'est vraiment fait dans une maturation et à travers des signes concrets, et dont un témoignage que je vais vous donner et qui est vraiment très important, enfin, qui était vraiment fondateur pour le groupe. Et puis ensuite, après avoir éclairé un petit peu sur la vision du groupe et sur comment on s'y prend, je ferai une relecture donc pastorale. Donc, qui est d'autant plus intéressante pour moi que le groupe a 2 ans, donc on a eu une année de lancement qui a été une année de feu, et puis cette année on a une année plus de maturation, donc plus de réflexion en profondeur sur ce qu'est l'évangélisation et sur ce qu'est plus précisément l'évangélisation paroissiale. Alors en fait, pour me présenter brièvement, moi je suis catholique depuis que je suis petit, j'allais à la messe le dimanche, je priais le soir, donc voilà, un petit garçon bien élevé dans la foi. Et puis, il y a 5 ans, j'ai vécu une conversion beaucoup plus forte, qui a vraiment changé ma vie. Et à travers cette conversion, j'ai vraiment eu un appel très fort à m'engager et à mettre le Seigneur en premier dans ma vie. Donc voilà, j'avais dit au Seigneur que je ferais ce qu'il me demanderait, donc j'essaye tant bien que mal. Donc dans un premier temps, comme le disait Monseigneur Ray, je me suis engagé à Cavod, donc c'est le groupe dans lequel je me suis converti à Boulogne-Billancourt, sur la paroisse Sainte-Cécile. Et c'est un groupe en fait dans lequel j'ai grandi pendant 3 ans. Et puis lors de ma première année dans ce groupe-là, comme je m'occupais de la louange du groupe, on m'avait demandé d'animer la louange d'un groupe d'évangélisation porte à porte. Donc c'était pas forcément ma tasse de thé, mais bon, on me demandait de jouer du piano, donc j'aime bien ça, j'y suis allé. En fait, pour moi, c'était un peu le traquenard, parce que à la fin de la première journée, le père qui organisait cette formation a envoyé tout le monde dehors, y compris les musiciens. Donc j'y suis allé. Et ça a été une expérience qui était très forte et qui m'a montré vraiment qu'il y avait un appel personnel pour moi, que j'étais à l'aise quand je rencontrais les gens, que j'aimais ça, et puis j'ai vraiment été surpris par l'agir de Dieu à travers cette rencontre. Moi, j'avais un peu l'image des VRP de France Loisirs ou bien alors des Témoins de Jéhovah, et j'ai pu être assez cruel avec des Témoins de Jéhovah, donc je me disais, si un jour je tombe contre moi, ça va être dur. Et puis donc tout au long de l'année, j'étais travaillé et l'année d'après, on m'a invité à participer à Toussaint 2006 et à organiser un petit pôle de formation sur une paroisse de l'Emmanuel, donc dans Bruxelles, parce que je travaillais là-bas. Et c'est une semaine qui a été vraiment incroyablement forte pour moi. Je vous donne un témoignage rapide de ce que j'ai vécu cette semaine-là. Le deuxième jour, on avait choisi de faire une pause le soir. Donc, ne jamais faire de pause quand on évangélise, parce que c'est souvent le moment où le Seigneur surprend. Je suis allé faire une pause donc en partant avec le prêtre qui nous accompagnait, et là j'ai vécu une grâce incroyable. En allant prendre le métro, j'ai eu ce qu'on appelle une motion intérieure, et j'ai ressenti qu'un homme allait se suicider. Et ça a été vraiment très fort, et j'étais pas habitué à ressentir les choses de cette manière-là. Enfin, j'étais dans un groupe charismatique, mais bon, entre dire dans un micro, le Seigneur veut toucher quelqu'un qui a des problèmes avec sa chasteté, et arriver sur un quai métro en se disant il y a quelqu'un qui va se suicider, il y a une marge. Et voilà, ça a été un moment très surprenant, et puis qui allait très vite. Enfin, au départ, j'ai un peu remis en cause, puis ça m'a vraiment pris très fort. Et bon, je ne vous fais pas le détail de l'histoire, parce que j'ai que 10 minutes. Mais 2 minutes après, j'avais demandé au Seigneur de montrer qui allait se suicider. Il me l'avait montré, la personne a couru sur le quai pour se mettre sous le métro. Je l'ai empêché, on a prié ensemble, il s'est confessé. Il est revenu me voir en pleurant, en me disant qu'il était chrétien quand il était petit, qu'il n'allait pas se suicider, qu'il allait se remettre à prier. Et ça a été vraiment un... Gloire à Dieu. En fait, pour moi, ça a été un moment qui a été déterminant, et c'est ce soir-là que j'ai pensé pour la première fois au groupe que j'ai monté donc 2 ans après. En fait, ce soir-là, je n'avais pas tellement compris ce qui s'était passé, mais en témoignant quelques mois plus tard, j'ai pleuré en assemblée en me rendant compte que le Seigneur, ce qu'il montrait là, c'est l'exigence de l'évangélisation. Pendant que je témoignais, le Seigneur m'a dit, tu vois, t'es arrivé sur le quai, parce que je te l'ai dit, tu savais que cet homme allait suicider. Comme tu savais qui c'était, t'es allé le voir, tu l'as empêché de se mettre sur les rails. Pour tout le monde, c'est normal d'avoir fait ça. Enfin, je vous pose la question, c'est normal ou pas de... Je vous dis, il y a quelqu'un qui va se suicider, est-ce que vous allez le sauver ou est-ce que vous restez là? Voilà, vous allez le sauver, tout le monde répond. Eh bien, le Seigneur me disait, toi, tu as été baptisé, tu le sais que je suis mort et ressuscité pour l'humanité, pourquoi tu n'y vas pas? Et c'est exactement pareil, quand vous avez des gens autour de vous qui ne croient pas en Dieu, ces gens-là sont spirituellement morts. Donc, si cette personne-là, spirituellement mort, ben voilà, va se mettre sous les rails d'un métro, ben c'est une âme qu'on a perdue, quoi. Et moi, ça m'a vraiment saisi, parce que je me suis dit, mais ce n'est pas un sport d'aller faire de l'évangélisation de rue, quoi. Ce n'est pas mon hobby qui remplace le foot ou le tennis. C'est un appel qui m'est personnel et où il faut que j'y aille. Donc quand je dis ça, je suis radical, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller attraper n'importe quelle personne dans la rue tout le temps et ne plus aller au travail parce qu'il y avait 150 personnes dans la rue. C'est pas ça. Mais en tout cas, c'est une vraie exigence et vous sauvez des vies, quoi. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis ce soir-là, je me suis dit, mais en fait, là je fais de l'évangélisation de rue. Le dimanche, je vais dans mon groupe de prière. Mais en fait, dans mon groupe de prière, il n'y a que des cathos. Et quand je fais de l'évangélisation de rue, quand je vais au bout de la démarche, j'ai rien à proposer à la personne, bah, si ce n'est une prière dans la rue, mais quelqu'un qui est touché par une prière dans la rue et qui ne connaît pas l'église, enfin, je me demande toujours comment il va s'en sortir derrière, quoi. Et du coup, m'est venue l'idée de monter un groupe d'évangélisation qui soit rattaché à une paroisse où il y a une veillée de prière. Et la personne, quand je la rencontre et que je lui propose une démarche de prière, je lui propose dans l'église comme lieu prophétique pour lui, où s'il est touché par le Seigneur, il aura mémoire que ça s'est passé là, et s'il veut retrouver le Seigneur, il saura qu'il faut qu'il aille dans une église, quoi. Et c'est pas à la rue Pigalle ou à la rue ou dans le boulevard de Clichy. Là, en disant ça, je fustige pas du tout, hein, les démarches dans la rue. C'est juste que pour moi, c'était un lien qui était intéressant, et j'ai vraiment eu ce désir de faire ça. Donc là, c'était une nouvelle avancée, mais comme je vous disais, un projet, ça a besoin de mûrir, donc moi, j'ai continué dans mes engagements. Entre-temps, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert notamment Jeunesse 2000, donc vous allez en entendre parler dans quelques minutes. Voilà, avec l'adoration du Saint-Sacrement, avec vraiment une pédagogie qui est une évangélisation en profondeur. J'ai passé un an dans le groupe de prière Abba aussi, qui fait également de l'adoration eucharistique. Et en fait, 2 ans plus tard, le prêtre avec qui j'étais à Toussaint 2006 m'appelle, me dit « Ce soir, à minuit, je suis à Pigalle, est-ce que tu viens ?» Donc je lui dis « Bon allez, j'y vais. » Puis ce soir-là, on évangélisait dans la rue, et puis il me dit « Si le Seigneur était avec nous, qu'est-ce qu'il ferait là maintenant ?» Et là, je le regarde, je dis « Je pense que le Seigneur, il a donné sa vie, et dans son ministère, il ne s'arrêtait pas à la moitié. Moi, j'aimerais rentrer dans un club privé. » Donc lui, il m'a répondu « Bon, toi, t'es un peu timbré, j'aurais pas dû te poser la question. » Puis quelques minutes après, je lui dis « Non, j'insiste, je le penserai pas comme ça, je voudrais y aller. » Du coup, il m'a donné l'autorisation. Je suis rentré dans un club privé. Donc, une hôtesse, dira-t-on, vient me voir et me dit « Salut, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ben, écoute, je m'appelle Alexis, je suis catholique et je viens de parler de Jésus. » Mais ce n'était pas du tout de la provoque hein, quand j'ai dit ça, j'étais là pour ça. Et du coup, au départ, elle était très surprise. Mais je lui dis « Mais toi, si j'ai bien compris ton travail, t'es une hôtesse, tu viens me voir quand je viens boire mon verre pour me rencontrer. » Ben, moi, je m'appelle Alexis, je suis catholique et je viens de parler de Jésus. Et du coup, on a parlé. Bon, le barman faisait un petit peu pression pour qu'on aille dans une petite loge à côté, donc moi, j'avais un petit peu peur. Et puis, j'ai fini par le faire et vraiment, avec audace, en me disant, Seigneur, c'est à double tranchant, tu me gardes bien près de toi parce que... Non, mais rigolez, allez vous mettre dans un endroit comme ça, vous allez voir. Je peux vous dire que j'ai passé 20 minutes avec un chapelet dans la main et je pense que j'ai fait au moins 4 fois le tour. Mais quand on est rentré dans cette pièce-là, la fille me dit « Mais t'es catholique, le sexe, t'en penses quoi ?» Je dis « Bah à ton avis, qu'est-ce que j'en pense ?» Elle me dit « Bah j'en sais rien. Bah, qu'est-ce que l'église en pense ?» Elle me dit « Bah je sais pas, moi je connais Jean-Paul II, tout ça. » Et je lui dis « Bah moi pareil. » Et là, elle explose de rire. Elle me dit « Mais t'as quel âge, quoi ?» Donc je lui dis « J'ai 26 ans à l'époque. » Et puis elle me dit « Mais 26 ans, t'as pas connu ça ?» Et je dis « Bah ouais, mais J'en suis hyper fier et je suis pas du tout frustré. Et pour moi, le plus grand bonheur est là. Bon, je vous fais pas toute la rencontre, mais je lui ai demandé de s'exprimer justement sur ce qu'elle vivait dans une relation. Oui, ça peut paraître un peu provoque, mais non, c'était vraiment la renvoyer, lui dire mais pour toi, il se passe quoi quand il y a contact entre deux corps, etc. Et puis quand elle s'est exprimée, je lui ai dit, tu vois, Jean-Paul II, le seul truc qu'il a dit, c'est que le corps était le langage de l'amour. Et il a dit que ça. Il a dit que ça. Après, il l'a expliqué en expliquant ce que ça voulait dire. Mais il a dit que ça, quoi. Et moi, sachant que mon corps, c'est le plus beau langage de l'amour, mais ce corps-là, je vais le donner à la femme que j'aurais choisie toute ma vie. Et c'est uniquement pour ça que je fais ce choix-là, quoi. Et au bout d'un moment, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais ta femme aura vraiment trop de chance, quoi. Et du coup, là, je l'ai regardé, je lui ai dit, et toi, dans tout ça? Et elle me répond, moi, c'est foutu. Je suis esclave de mon corps et tu voudrais mon corps maintenant, tu l'aurais, quoi. Et je peux pas me défendre. N'importe qui veut de mon corps, il a tellement subi que je peux plus résister, quoi. Là, je lui dis, ok, est-ce que tu crois que ça peut changer? Elle me dit, j'en sais rien. Est-ce que tu crois que ça peut changer d'ici un quart d'heure? Là, elle m'a regardé. Tu fais quoi? Je lui dis, t'as raison, j'ai aucune foi. Est-ce que tu crois que ça peut changer dans 2 minutes? Et là, elle a été très surprise. Elle me dit, mais tu vas faire quoi? Je lui ai sorti une énorme croix. Je l'ai mis dans les mains. Je lui ai dit, cet homme, il est mort et ressuscité pour toi, donc il peut descendre là où t'es, aller prendre ta pauvreté, la transfigurer, et si t'es là sur cette terre, c'est parce que t'as le droit au même bonheur que je vis moi, et là maintenant. Elle m'a dit, ok, donc j'ai expliqué comment on priait, en lui disant qu'il fallait qu'elle ouvre un peu son cœur pour ça. Fais une prière, au bout d'un moment j'ai invoqué l'Esprit Saint, et à la fin elle a rouvert les yeux. Elle m'a dit, quand t'as invoqué l'Esprit Saint, j'ai senti une flèche rentrer dans mon cœur, j'ai senti une masse dans tout mon corps, et j'ai redécouvert tout mon corps et avec une grande douceur. Ça, c'est pas des mots que je lui ai dit, quoi. Elle a dit ça, on a terminé le temps de prière, je commence à sortir, une fille vient me voir et me dit, excuse-moi, c'était toi qui étais avec Aïcha tout à l'heure? Oui. Il paraît que t'as prié pour elle, que c'était trop ouf, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Maintenant, à tous ceux qui se posent la question de où j'ai trouvé le nom Samarie, ouvrez votre Bible à Jean 4, et vous verrez que la Samaritaine est rencontrée par le Seigneur qui s'adresse à elle, qui lui demande à boire, qui ensuite lui demande d'aller chercher son mari. Elle en avait 5. Elle se convertit, elle va chercher les autres, et les autres viennent. Et c'est comme ça qu'est né ce projet. Et du coup, je me suis dit, je vais monter quelque chose dans le quartier. Je suis allé voir le père de la paroisse Sainte-Rita. Je lui ai soumis le projet. Il a accepté. Et depuis janvier 2009, on se retrouve une fois par mois avec 3 temps en fait dans la veillée. Donc la vision du groupe, donc c'est la Samaritaine, donc boire et donner à boire. Donc nous, en fait, ce qui est vraiment important pour nous dans notre évangélisation, c'est de ne pas oublier que quand je vais évangéliser, le premier évangélisé, c'est moi. Jésus, quand il s'adresse à la Samaritaine, la première chose qu'il dit, c'est « donne-moi à boire ». Avant de donner à boire, il demande, quoi. Et du coup, nous, on vient vraiment dans cette optique où on a un temps de formation. Ensuite on a un temps de prière d'1 heure avec tous les missionnaires qui sont là. Et puis au bout d'1 heure, le prêtre nous envoie. On monte 4 pôles, un pôle de louange, un pôle d'intercession, un pôle d'accueil et des binômes qui vont dans la rue. Alors moi, décembre 2008, je mets un mail en me disant est-ce que les gens vont répondre. Première veillée, on avait 50 missionnaires. Et le groupe n'a pas désempli pendant 1 an. C'est-à-dire que tous les mois, il y avait minimum 50 missionnaires qui venaient. Et moi, je m'attendais à voir Cavotte, Plénitude, et puis les 3/4 des missionnaires d'Annunzio, qui s'étaient fait retourner 3 mois avant, donc c'était normal qu'ils viennent. et non, j'avais des gens, mais de tout groupe de prière, des gens qui venaient d'Abba, des gens qui venaient de Cavotte, des gens qui venaient de nulle part. Des amis d'amis, des gens qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. Petit Fioretti, première veillée de Samarie, le guitariste de Johnny passe. Il repasse la fois d'après, il repasse la fois d'après, et maintenant c'est le guitariste du groupe de Samarie. Guitariste de Johnny Hallyday, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça a été le temps de fondation et qui a été vraiment très beau. Et le premier enseignement de l'année dernière, c'est que. Moi, j'avais plein d'a priori déjà sur ce quartier avant moi d'y aller. Donc, après, ça s'est arrangé de mon côté. Ensuite, je m'étais dit, les gens ne vont pas vouloir venir. C'est faux, ils sont tous venus. Après, je me suis dit, ça va être dur dans la rue. C'est complètement faux. Enfin, si, il y a son lot de difficultés, mais pas plus qu'ailleurs. Merci, Baudouin. Donc, il me reste 5 minutes, mais ça va aller. Donc ouais, je vais accélérer un peu. Du coup, j'en étais où ? J'ai retrouvé. Oui, voilà, c'est le quartier. Tout le monde trouve ça dur, et en fait, non. On découvre que quand on y va, c'est un peu comme un arrosoir. Hein. Avant de le verser dans les fleurs, il est plein. Donc voilà, l'eau passe par le canal et on est les premiers comblés. Donc ça, c'était la première année. Et puis cette année, on a vécu une année qui était plus de maturation. On a eu un hiver assez froid, donc à moins 8 degrés, quand les gens ne sont pas engagés, ils ne viennent pas beaucoup, forcément. Et moi, ce que j'ai découvert en fait cette année, c'est que aujourd'hui, là où on est l'église sur l'évangélisation, enfin c'est ce que je crois, hein, je me trompe peut-être, c'est qu'on connaît beaucoup l'évangélisation comme des événements. On a eu des événements comme Holy Wins, par exemple, une fois par an. On a cette année Annuncio, voilà, mais pareil, deux semaines dans l'année. Donc ils sont faits pour être des événements, donc c'est tout à fait normal et c'est super. Et d'avoir 400 jeunes à Annuncio, voilà, je souhaite en tout cas qu'il y ait 400 jeunes, voire plus encore. Donc c'est vraiment génial. Et en même temps, ce que je découvre en montant Samarie, c'est que Samarie, au bout de 18 mois, je ne peux plus dire que c'est un événement. Parce que quand je mets un mail, les gens, ils ne le lisent plus, quoi. Enfin, parce que Samarie, ce n'est plus un buzz. Quand j'envoie un mail, c'est la même veillée que la veillée d'avant. Et quand il fait moins 8 degrés, ils ne vont pas dire « chouette, on va voir Samarie », parce qu'en juin, il y aura Samarie, donc ils reviendront en juin. Et du coup, il y a une vraie prise de conscience, c'est que du coup, moi, c'est vrai que c'est vraiment lourd pour moi cette année, Samarie, parce que je suis responsable de groupe, donc j'ai tout le poids de cette mission, mais comme les gens viennent en considérant que c'est un événement, je ne m'en décharge jamais. Et du coup, moi, dans les questions que je me pose, et que je vous pose du coup, parce que c'est une question d'église, je pense, comment on peut faire pour que les missionnaires ne réagissent pas à des événements ou à la qualité d'une plaquette ou d'un film, etc., mais réagissent vraiment à un appel du Seigneur, et du coup, comment on peut les former aussi à ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont hyper assistés dans l'évangélisation, et moi je comprends qu'il y ait des prêtres qu'on aimer, et le père David le disait très bien tout à l'heure, si c'est pas les laïcs qui portent, ben on fait comment, quoi ? Et du coup, voilà, moi, dans les pistes que j'ai, et puis je vais terminer là, je pense qu'on va essayer de monter des fraternités l'année prochaine à Samarie, pour vraiment construire une unité, que ça soit fondé sur une amitié, et que bah, du coup, ça soit aussi un lieu de formation pour qu'on apprenne à aimer vraiment le Christ dans sa mort et sa résurrection, et que ça soit parce qu'on est marqué au fer blanc qu'on a envie de faire ça. Et puis, j'ai un autre projet aussi que je vous soumets, c'est de monter une école d'évangélisation sur la paroisse Sainte-Cécile, qui s'appellera l'école Jean-Paul II. Le petit slogan, ça sera « Devenez ce que vous devez être ». Et en fait, là-dessus, c'est tout un projet, donc j'en ai parlé pas mal cet après-midi, mais on voudrait notamment déjà avoir un cycle de formation, mais aussi proposer des sortes de bilans de compétences qui permettent aux gens justement de se découvrir en tant que chrétiens et de savoir quelle est leur grâce, et du coup de faire vraiment un travail professionnel pour que les chrétiens se rendent compte que être chrétien et être dans le monde, c'est une chose, et c'est pas deux. C'est-à-dire qu'il faut que je sois moi-même, et à partir du moment où je suis moi-même, j'ai pas besoin d'un gourou qui vienne me chercher tous les mois en me disant ça serait bien que tu ailles dans la rue avec nous parce que c'est galère, quoi. Voilà, donc je laisse tout ça à votre prière. Et je vous encourage aussi vraiment chacun dans vos engagements à vous dire que vous êtes chacun responsable du groupe dans lequel vous êtes et que vous êtes chacun responsable de l'église et qu'on a vraiment profondément besoin de vous, quoi.